Bonsoir, vous écoutez Déjoré, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
De voler des bonbons. Je lui lance un regard de pur mépris. Elle se précipite vers moi. Tous mes muscles frémissent. Je me détourne en laissant mes affaires par terre.
Nomi, arrête-toi!
Je remonte la rue à grands pas.
Nomi, attends, il faut qu'on parle!
Je crie par-dessus mon épaule. Et pour dire quoi? J'ai atteint le sommet de la côte et je commence à souffler bruyamment.
Nomi, et tes affaires? Tu peux pas les laisser là?
Rien à foutre! Soudain, je ne sens plus sa présence dans mon dos. Elle s'est arrêtée pour ramasser les courses. Je passe devant notre rue et continue à marcher. À marcher encore.
You told me that I shouldn't. I told you that I wouldn't. You told me that I shouldn't. I told you that I wouldn't. I asked you to be nice to me. You said that you would agree, but you don't really care. Fish is in my stomach, no water in my eyes. Cleaning up the shit has weather acts not nice. Fish is in my stomach, no water in my eyes. Cleaning up the shit has weather acts not nice. You told me that I have my own, that's true, but much I hang on phone. But you seem far and
bonsoir.
Vous écoutez Déjenré, l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Et donc là, eh bien, on a eu l'idée de vous faire, de commencer peut-être à vous faire un genre de feuilleton radiophonique.
Voilà, parce que c'est un style, c'est, je sais pas, c'est un style un peu rétro qu'on n'entend plus beaucoup. Alors nous, ça nous amusait.
On a eu envie d'essayer, alors bon, il y a eu un petit problème de micro, alors désolé pour le petit blanc au milieu du dialogue. Et donc, on vous lit en fait un livre qui s'appelle À l'origine, qui est un roman de Karen X Tulchinski, qui est une auteure canadienne. Voilà. Donc, peut-être dans 15 jours, la suite des aventures de Nomi, l'héroïne lesbienne de ce roman. Et donc, avant ce texte, vous avez écouté un début de morceau de ESG, qui est un groupe de New York. Et là, juste après, juste à l'instant, on écoutait Les Reines Prochaines, un morceau qu'on aime bien, d'un groupe qu'on écoute souvent, un groupe de femmes de Suisse allemande.
Et donc, ce soir, on avait envie de vous parler alors d'un sujet qui peut paraître très large comme ça et très général, qui sont, les relations qui se tissent entre femmes. Alors, tout ça, c'est avec vraiment cette idée qu'il y a vraiment une richesse et une diversité de types de relations qui peuvent s'instaurer. Entre femmes de différents milieux, différentes générations, etc. Et que tout ça, c'est finalement très peu visible dans notre société et surtout très peu valorisé. C'est-à-dire qu'on va peu mettre ça en avant, juger ça comme positif, etc. Et alors on peut se demander pourquoi finalement, alors que je pense qu'on est plein de femmes à qui ça nous apporte énormément toutes ces relations-là. Alors pourquoi c'est si peu visible? Je crois que c'est assez évident, que c'est lié justement à la structure patriarcale de notre société.
Alors Hélène, on parle souvent de patriarcat dans cette émission, peut-être ça peut être utile d'encore définir ce mot-là. Qu'est-ce que c'est que le patriarcat ?
Ouais, donc pour être assez clair sur des termes qu'on peut employer, je crois que pour nous, le patriarcat, c'est bien vraiment un système de domination, c'est-à-dire quelque chose qui est ancré dans la société et qui fait qu'il y a une domination masculine. Donc une place prépondérante des hommes dans toutes les sphères de la société, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille ou de la sphère des sphères privées, etc. Et que ces dominations là elles peuvent prendre plein de formes différentes.
Rappelons donc quand même encore que dans la sphère du travail, par exemple, à travail égal, les femmes sont encore un quart voire un tiers souvent payées moins que les hommes. Et que dans la sphère familiale, on le sait, on le voit, si on n'est pas trop aveugle, les femmes tiennent encore un rôle très important, que ce soit pour les tâches ménagères, pour les enfants.
Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, la double journée de travail pour les femmes, parce que les femmes, elles ont un rôle professionnel qui est important, et je pense que elles le tiennent aussi, à leur métier. Et mais qu'après, ça les empêche pas d'assumer à domicile, toutes ces tâches-là qui, pour la plupart des gens, ce qui est normal et ce qui leur incombe de toute façon.
Et cette société, donc qu'on dit patriarcale, ce système de domination-là, et c'est aussi ça va avec l'idée de sexisme, c'est-à-dire quand même aussi le fait que cette société, elle fonctionne bien sur des rôles binaires, bien définis très précisément, le rôle de femme, le rôle d'homme, qu'on nous assigne à la naissance selon qu'on est avec un sexe de femme ou d'homme. Enfin, d'ailleurs, c'est pas toujours si clair. Et c'est à partir de cette assignation-là à la naissance qu'on va avoir des rôles très clairement définis et qu'on va très vite comprendre dans notre éducation, etc.
Et dont il faut surtout pas sortir, quoi.
Voilà. Et c'est bien ça aussi qu'on critique dans une sphère féministe, c'est que... dans une réflexion féministe, c'est bien qu'on peut vouloir sortir de ces rôles-là aussi et ne pas vouloir être la femme qu'on attend ou l'homme qu'on attend d'ailleurs aussi, parce que c'est des rôles qui sont très très enfermants.
Voilà, donc c'est pas étonnant quand on sait qu'il y a ce système-là de domination, c'est pas du tout étonnant de se dire que finalement tout ce qui est du domaine des hommes, des relations qu'ils tissent, etc., ça va être vraiment valorisé. Moi, je crois qu'il y a qu'à voir aussi, par exemple, le cinéma, la littérature, etc. C'est toujours des formidables histoires d'amitié entre hommes qui vont vivre des choses incroyables, etc. Et que finalement, les relations entre femmes, on en parle très peu, ou alors ça va être une relation les relations mère-fille éventuellement. Donc ça reste dans des sphères bien précises comme la sphère familiale, mais que sinon voilà, c'est vachement moins mis en avant, quoi.
Ou alors ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ce qu'on va voir, c'est les relations conflictuelles entre les filles, des systèmes
de compétition, des systèmes de ouais, de vraiment de hiérarchisation des filles mieux, des filles moins bien. Et ça, c'est aussi un truc, enfin, un système inhérent à ce fonctionnement patriarcal et sexiste. C'est bien le fait que si on amène les filles à entrer dans un système de compétition et
de rivalité,
et de rivalité, et aussi avec une certaine misogynie intégrée, parce que bon, la misogynie, elle est présente partout et aussi chez de nombreuses filles.
Alors, on peut peut-être rappeler aussi ce qu'on appelle la misogynie. C'est-à-dire, c'est ce fait de dévaloriser, de ne pas considérer les femmes dans ce qu'elles sont. Et
oui, et c'est pas seulement des fois la définition est un peu réduite à l'idée de pas aimer les femmes. C'est pas juste de pas aimer les femmes, c'est vraiment de dévaloriser toutes les sphères qui sont traditionnellement attribuées aux femmes. C'est-à-dire que tout ce qui va être dit féminin va être moins valorisé que ce qui est dit masculin.
Voilà.
Donc, enfin, on le voit bien. Hein.
Donc nous, dans cette émission, voilà, il s'agit pas de nier que ça existe, ces réalités-là. Que oui, je pense que en tant que femme, souvent, on va avoir tendance à se comparer à d'autres femmes, alors de manière positive ou négative. Mais en tout cas, je crois que c'est assez douloureux à vivre, ce fait de. Alors, sur ces questions d'apparence, hein, est-ce que je suis trop grosse? Ah bah tiens, c'est forcément par rapport à d'autres femmes qui, elles, seraient belles, minces, correspondraient plus à l'image qu'on attend d'une femme, comme de manière négative, donc dans ce truc de misogynie, de, en tant que femme, se dire, oui, moi, peut-être, j'ai pas trop de copines parce que quand même, les femmes, c'est moins intéressant, je préfère avoir des relations avec des hommes, ça m'apporte plus, ou...
Et puis c'est vrai que du coup, vu que ça existe vraiment, c'est tous ces trucs de compétition et d'évalu, enfin qu'il y a effectivement des rapports très compliqués entre les filles, c'est possible aussi, et qu'il y a des vécus très durs. Enfin, je pense, par exemple, moi, je pense au collège où effectivement les relations avec des filles, c'était pas toujours évident. Alors ce soir, justement, nous on a plus envie de parler des choses positives. Parce que bah, moi, au collège, j'avais aussi des super copines avec qui je vivais plein de choses. Et on a plus eu envie de mettre en avant cet aspect positif de qu'est-ce qui se noue de positif entre les femmes, plutôt que de reparler encore
de tous ces clichés dont on voit pas, dont on montre pas assez le caractère construit. C'est-à-dire que, ben oui, s'il y a rivalité, s'il y a compétition, et ben c'est bien l'ensemble de la société qui nous amène à ça.
Et c'est pas la nature des femmes de se détester, de se, je sais pas, d'ailleurs j'ai que des mots péjoratifs qui me viennent en tête, hein,
chercher,
chamailler, voilà. Enfin bref. Donc ce soir, nous on avait plutôt envie de...
Voilà, de vous parler, ben, de tout ce qu'on montre pas souvent, donc de toutes les relations chouettes qui peuvent se nouer entre les femmes. Que ce soit à des niveaux très différents, et justement on distinguera à la fois les questions d'amitié ou d'amour en disant que c'est sans doute pas si simple aussi de vouloir catégoriser ces relations là.
Et oui, on parlera de solidarité, enfin on va essayer de parler de trucs chouettes ce soir, et on va écouter un morceau de rap qui est d'une chanteuse qui s'appelle Bams, et c'est une chanson où elle explique que elle dans la vie, et ben elle a appris à dire non, et dans toutes les langues.
Déjà pris trop de personnes, voulaient prendre place dans mon cockpit sans même s'intéresser à moi, sans plébiscite. Mais ma conduite explicite, attitude interdite, fait de moi le parasite, l'engraineuse. Le catalogue me pousse vers l'exit, j'en deviens trop haineux. Je me braque, ça m'exaspère, on dit que je suis teigneuse. Me fâche si je n'ai pas ce qu'on me doit, bougonneuse. Et là on me trouve capricieuse. Des mots ininterrompus à m'en donner des otites. Maudite, quand je m'attaque aux théories, je les discrédite. J'irrite comme un des mortels, je détériore telle une rebelle. J'avoue, je fous le bordel. Je tombe les cloisons, je sors de mes gonds. Prends ton droit, serre-en toi. C'est facile de crier non. Inutile pour ça d'avoir des ronds. Si je vois que je sature trop, je lance mon juron. Non, non, non. Nada à la niette, aïe la nga, naïne, à la niette, non, naïno, nada à la niette, Un peu moins de vite, faire 15-16, déferlement de bourrage de crâne, j'en tiens en baisse. J'exagère, mais je rejette toute forme de charentaise, morale ou mentale, la vie qui fait à qu'elle me plaise. Impossible, y'a pas moyen, assurément, t'as dû te bourrer de cible. Apparemment, toi et moi, on ne lit pas la même Bible, c'est inadmissible. Pour ne pas dire indigestible, que ce soit moi la nuisible. Arrive, arrive, les portes innocentes, soi-disant jeune, adolescente, où t'es inconsciente. Trop souvent j'entends dire, je suis une délinquante, non, je suis une maniérée ou que j'ai des manières inconvenantes, non. Nine, nada, la niette, Airanga, nine, à la niette, non. Nine, no, nada, la niette, Airanga, nine, rarement dans les rangs. Transpire à contre-courant, je vous fais soupir, c'est déconcertant. Tu vois dans mon calme apparent de la nonchalance, dans ma distance, de l'ignorance. Mon indépendance, tu la transformes en arrogance. Ma résistance devient extravagance, ma maladresse n'est qu'un politesse. Et tu vois dans ma gentillesse une marque de faiblesse. Conflit en conflit, faut pas craquer, même si anéanti, tu sembles ralenti. Même en sous-régime, je persévère, j'opère un changement d'atmosphère, c'est nécessaire. Je balance mes verres, je me défends. Trop arrogant, t'es trop insultant. En pensant que je te laisserai faire ma vie un enfer prévoyant. Sans souci, ferme-moi ta prisonnière. Non, nine, no, nada à la niette. Airanga, nine, à la niette. Non, nine, no, nada à la niette. Airanga, nine, à la niette. Non, nine, nada à la niette. Airanga, nine, à la niette. Non, nine, no, nada à la niette.
Vous êtes bien sur Dégenré, donc notre émission féministe, ce soir donc sur les rapports entre femmes, dont toute leur diversité, leur richesse. Alors, donc quelque chose dont on parle pas souvent, alors nous aussi, hein, là voilà, on est entre nanas au studio, il y a aussi une chouette ambiance, ça par exemple c'est une expérience qu'on vit entre femmes et qui est plutôt sympa.
Oui, parce que donc là Julia a la technique et on l'aime très fort.
Et c'est super chouette de faire cette expérience là aussi, qu'on apprenne toutes à faire la technique à la radio, on vous le dit jamais mais on essaye de tourner et d'apprendre la technique chacune à notre tour. Et c'est formidable, facile, et c'est pas toujours facile évidemment.
Voilà. Et par exemple, par rapport à ces questions de solidarité, c'est vrai que je pense assez facilement, on va entendre parler de solidarité masculine. Alors ça peut être quand il s'agit de sport, mais aussi, je sais pas, au travail ou dans la vie en général. Et d'ailleurs, je sais pas, les champions de la solidarité, voilà, ça va être aussi l'abbé Pierre, ou enfin des figures emblématiques comme ça. Qui sont un peu des espèces d'emblèmes de la solidarité.
Et bizarrement, moi j'ai l'impression que quand j'entends parler de solidarité féminine, et ben c'est toujours avec une petite pointe de moquerie ou enfin bon, j'ai quand même cette impression là, ou en tout cas elle est vachement moins valorisée, alors que quand même, et ben elle existe cette solidarité là. Moi je la vois présente dans plein de sphères différentes, à plein de niveaux dans ma vie et dans celle des autres femmes que je vois autour de moi. Quand même c'est présent.
Voilà, et du coup, on avait envie de revenir un peu là sur cette idée-là, en montrant aussi peut-être, je sais pas, comment dans différentes cultures ou à différentes époques, ça pouvait être présent. Alors, je pense, par exemple, moi, de manière très personnelle, j'ai voyagé un peu en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Bénin, et c'est vrai que du coup, j'ai été amenée à vivre un peu là-bas pendant plusieurs mois, et donc dans une famille, donc avec beaucoup de femmes. Et donc là-bas, donc mon amie, l'amie qui faisait un peu le lien, c'était donc c'est donc une amie béninoise qui est institutrice. Et c'est vrai que donc dans la maison évoluaient beaucoup de femmes parce que voilà, il y a toujours dans cette question de répartition des rôles, etc. C'est vrai que voilà, la sphère donc domestique, donc être à la maison, c'est beaucoup plus le rôle des femmes, et du coup les hommes sont peu présents. Et du coup, je crois que des images qui sont assez véhiculées, c'est ah oui, toutes ces femmes dans une maison, ça se chamaille, ça, etc. Sauf que moi, j'ai plus vu des femmes qui déjà rient énormément entre elles, parce que oui, je pense qu'elles ont conscience que, enfin, elles ont conscience ou elles ressentent que rester à la maison comme ça à longueur de journée, eh ben oui, c'est assez pénible et que des fois elles auraient d'autres envies. Et mais que, eh ben, le fait de d'être entre elles, eh ben, il y a aussi des choses chouettes à partager. Et du coup, moi, je me souviens vraiment de plein de crises de fou rire en train de, voilà, en train de faire des choses tout à fait anodines, que ce soit en faisant à manger ou en faisant la lessive ou des choses comme ça, d'énormes fou rires. Et aussi de gestes de solidarité très forts, parce que par exemple il y a donc le sida qui touche énormément la population là-bas et beaucoup de femmes. Donc ça, je crois qu'on vous en avait parlé pendant une de nos émissions justement sur les femmes et le VIH. Et donc ça, c'est un facteur voilà très problématique pour les femmes. Et ben que dans nos sociétés en général, ça paraît assez normal que des hommes aillent voir ailleurs. Et puis bah elles, voilà, les femmes, et ben du coup elles sont là et elles sont toujours disponibles pour leur mari. Donc voilà, bah quand ils reviennent à la maison, et ben sida, voilà, le sida ou d'autres maladies ou quoi, et ben voilà, on le reçoit comme ça. Et donc, la dernière fois que j'y suis allée, il y a une très bonne amie de la famille, donc qui était coiffeuse, qui venait de mourir du sida. Et en fait, toutes les femmes de la famille s'étaient relayées pendant plusieurs mois pour s'occuper de sa maison à elle, s'occuper de ses gamines et les accompagner vers cette mort. Et que ça, enfin, ça avait été une expérience assez terrible, voilà, de voir cette amie disparaître, mais aussi qui les avait énormément soudées. Et il était vraiment pas question pour qui que ce soit de la rejeter, parce que je sais pas, parce que ça aurait été de sa faute qu'elle attrape la maladie, ou enfin tous ces genres de discrimination qui existent beaucoup quand même, quelles que soient les sociétés, hein, que ce soit en Afrique ou en Occident, quoi. Cette discrimination par rapport au SIDA, par exemple.
Oui, non, mais c'est vrai que dans beaucoup de pays d'Afrique noire, le VIH-SIDA est hyper présent et du coup la mort aussi, enfin par rapport à cette maladie-là. Je voulais juste préciser quand tu disais on l'attrape machin, que du coup hein, c'est là par voie sexuelle, de par pénétration, j'imagine vaginale ou anale, sans être protégé par un préservatif, parce que c'est pas toujours évident d'imposer ou de proposer le préservatif lors des relations conjugales, justement.
Oui, c'est bien le problème, c'est que puisque c'est conjugal, voilà, ça veut dire, c'est un peu cette idée que voilà, que la femme est complètement disponible et qu'elle ne peut rien exiger puisque c'est son mari, quoi.
Mais moi, j'ai rencontré des femmes qui me racontaient quand même que effectivement elles discutaient aussi entre elles sur comment, par exemple, il y a le préservatif féminin qui est une bonne tactique, quoi, parce que ils se voient pas forcément, enfin bon, si l'homme regarde pas trop bien, ça peut passer assez inaperçu. Et comment elle surpasse le mot aussi entre elles. Enfin, il y a quand même une communication qui existe vraiment aussi pour se passer des trucs, parler.
Ouais. Et du coup, par exemple au Bénin, et ben dans toute la lutte justement contre le SIDA, elle est essentiellement menée par des femmes et du coup qui s'organisent vraiment au niveau associatif et qui font un boulot incroyable dans tous les villages, etc. Et là-bas, donc on parlait de par exemple de la double journée de travail pour des femmes. Là-bas, c'est parfois la triple journée, hein, parce que ma copine, par exemple, elle est enseignante. Après, elle doit s'occuper de ses enfants, de sa famille, etc. Et après, il y a la vie une vie plus rurale, parce que c'est des gens beaucoup qui sont exilés de la campagne pour arriver en ville, mais qui gardent toujours des champs à cultiver pour se nourrir, et qui du coup régulièrement la nuit ou dès qu'elle avait un peu de temps allait aux champs pour faire pousser la récolte. Et voilà, donc c'est des triples journées de boulot. Et même avec tout ça, qui trouvait le temps, voilà, de militer dans des associations de prévention contre le SIDA et de s'organiser vraiment entre elles pour faire un super boulot, quoi.
Ouais, pour aider les malades et tout ça.
Ouais.
Non, mais moi, je trouve ça chouette de visibiliser ces exemples de solidarité là. Et bon, là, du coup, tu parlais toi du Bénin parce que t'y es allée, mais du coup aussi, on peut regarder. Enfin, moi, j'avais aussi envie de parler à d'autres époques, quels exemples de solidarité il y a eu. Et moi, ce à quoi je pense comme ça là, c'est aussi les avorteuses, les faiseuses d'anges, qui donc avant 1974, où l'avortement est devenu légal en France. C'était bon, il y avait des femmes et des hommes qui le pratiquaient clandestinement et qui risquaient beaucoup de choses. Alors évidemment, il y avait des personnes qui le pratiquaient pour aussi des questions d'argent, mais je crois vraiment qu'il y avait des femmes qui le pratiquaient aussi. pour venir en aide d'autres femmes qui étaient dans la merde si elles étaient enceintes parce qu'elles étaient pas mariées, parce que elles pouvaient pas encore avoir un autre enfant parce qu'elles en avaient déjà trop et que c'était déjà une trop lourde charge, enfin pour plein de raisons, et ces femmes-là, elles prenaient vraiment des risques. Je crois que je sais plus c'était quoi.
Il y avait la peine de mort, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont fait purement et simplement décapiter pour ces pratiques-là, quoi.
Et du coup, ça, je trouve, c'est quelque chose qui existe. Enfin, ça a été des réseaux importants qui ont existé en France il y a de ça 30 ans, quoi.
Bah oui, oui. Et depuis très longtemps.
Et depuis très très longtemps. Et ça, c'est des choses que faut pas oublier, je pense. Enfin, parce que du coup, il y avait vraiment des choses de solidarité. Mais même du coup, parce que, enfin, vu que c'était illégal, et ben, c'était des copines qui disaient, enfin, des amis ou des femmes de la famille qui disaient, ah, bah, si t'es dans l'ennui, tu peux.
Oui, tu peux faire appel à moi ou je connais une femme qui peut pratiquer ça, quoi. Et du coup, on rejoint aussi une des sphères où ces solidarités-là, elles sont vraiment frappantes. C'est vraiment la sphère du quotidien. Enfin, que ça passe, je pense que ça passe par des grands mouvements de lutte, que ce soit des luttes, je sais pas, en France du MLF ou encore actuellement. À l'heure actuelle, mais ça passe aussi vraiment par une sphère quotidienne où le rôle aussi de ces amis. Enfin, je pense que voilà, nous en tant que femmes, ben je crois qu'on a aussi envie de dédier cette émission à toutes nos amies femmes qui nous accompagnent depuis tout le temps et je crois qu'ils sont à la fois des vrais repères dans nos vies et qui ont une importance fondamentale, quoi.
Et c'est d'ailleurs moi j'avais envie de souligner à quel point je trouve que les relations d'amitié, je trouve que bizarrement plus on grandit, moins elles sont,
moins
comme,
on
comme
leur
elles paraissent
place.
Bizarres, enfin plus elles ont vachement moins de place. Enfin, j'ai l'impression que pour des adolescentes, c'est normal d'avoir des meilleures amies, des meilleures copines, d'être tout le temps fourrées ensemble, de tout faire ensemble. Et ça pose pas trop de questions, elles viennent dans la famille, en tout cas c'est comme ça que ça se passait pour moi et pour pas mal de copines.
Ouais, on les invite à partir en vacances ou ouais.
Et bizarrement, bah le temps il passe et puis donc on grandit, on devient adulte et puis moi pour la plupart des femmes, il y a le travail ou il y a la vie professionnelle ou la vie familiale et voilà, enfin et le couple qui arrive, enfin pour la plupart, enfin voilà. Et bizarrement, les meilleures amies, elles sont plus loin, on les voit moins, elles prennent moins de place. Et alors là, ça deviendrait hyper bizarre de partir en vacances avec sa meilleure amie et son mari et ses enfants. Enfin, je crois que ça perd de l'importance et c'est complètement dévalorisé, ça veut dire. Alors que c'est vraiment... Et moi, je vois des femmes de 40, de 50 ans qui ont des amis, que c'est vraiment essentiel dans leur vie, justement. Quoi, des trucs de soutien,
de faire des choses ensemble aussi dans une complicité et tout ça et que on se rend compte aussi, enfin voilà, je sais pas, il y a plein d'études, mais juste si on regarde aussi autour de nous, et ben que tiens, bah tout à coup, je sais pas, peut-être justement vers 40 ou 50 ans, quand il y a plein de divorces par exemple et que du coup tous ces jolis couples se cassent la figure, et ben hop, tout à coup, on regarde autour de soi et elles sont passées où, les copines, et voilà. Et ceci dit, il y a un côté peut-être un peu triste de dire que ces amitiés-là, elles ont été délaissées, mais que après, ceci dit, ouais, ça recrée aussi plein de super relations entre femmes, quoi.
Mais moi, je vois plusieurs femmes qui ont la cinquantaine ou la quarantaine et qui effectivement se sont séparées ou ont divorcé de leur compagnon avec qui elles ont fondé une famille, des enfants, machin chouette, et qui renouent des liens hyper forts avec des copines, et souvent entre femmes justement qui sont un peu dans la même situation, qui est pas évidente de voir se resocialiser, parce que à un moment donné, la famille, ça devient un peu le seul lien social, et quand on divorce et quand les enfants grandissent et tout ça, se resocialiser, c'est pas facile. Et moi, j'ai vu plein de liens hyper forts se recréer justement entre des femmes d'une cinquantaine d'années, effectivement, ou enfin bon,
ouais, ouais.
Peu importe, et hyper fort et hyper important et hyper essentiel pour juste aller bien ou aller mieux, quoi. Vraiment, c'est très très important. Et ça, c'est, on en parle super peu, ou c'est vraiment parlé à la légère, les femmes entre elles, les copines, alors que c'est vraiment quelque chose d'hyper essentiel. Moi, en tout cas, dans ma vie, c'est hyper essentiel, quoi.
Oui, c'est ça. Et il y a donc cette chose, donc comment ces relations là elles sont pas valorisées, mais aussi du coup toutes les sphères où elles vont s'exprimer, parce que souvent il y a vraiment et même, donc c'est là qu'on peut revenir à des histoires de misogynie, même dans des magazines féminins ou je sais pas quoi, on va mépriser, je sais pas, les ateliers je sais pas quoi, les ateliers composition florale ou je sais pas quoi, qui je sais pas, enfin après voilà, ça peut plus ou moins intéresser les personnes de faire de la composition florale, mais ou en tout cas ça peut être vraiment un lieu de rencontre important pour des femmes et de complicité, de se retrouver entre elles, de partager des choses, de voilà, d'être aussi dans à la fois se raconter soi mais aussi voilà, se raconter ce qui se passe, voilà ce qui se passe, analyser un peu plein de situations quoi.
Et ouais, enfin pour l'exemple que tu donnais, enfin moi j'en sais rien, il y a effectivement des sphères qui sont traditionnellement réservées ou attribuées aux femmes, donc tu parlais de composition florale, la couture, mais même moins caricaturale, hein, moi les ateliers de théâtre que je faisais amateur, on n'était que des nanas quoi, où il y avait un garçon, enfin on était il y a plein de choses comme ça où souvent on se retrouve en groupe de filles et autant ouais, ce que je voulais dire, moi j'ai envie de faire attention justement à cette misogynie-là, enfin à faire attention que moi effectivement ça peut m'intéresser de dénoncer le système et ces carcans qui font que bah effectivement qu'est-ce qu'il y a pour les femmes, et ben peut-être il y a que les, enfin il y a où il y avait que surtout la couture et encore des trucs artistiques, ou enfin tous les domaines ne sont pas vraiment facilement accessibles aux filles et aux femmes.
Oui, en général. Quoi.
Sauf que c'est bien le système que je dénonce et pas les femmes qui ensuite vont effectivement, peut-être ça va être des espaces où elles vont pouvoir vivre des choses intéressantes. Et ben se retrouver à l'atelier couture, c'est peut-être son copain ou je sais pas qui, son mari va se moquer de sa femme parce qu'elle va à l'atelier couture. N'empêche que c'est peut-être un espace où effectivement, et ben elle va se retrouver avec d'autres femmes avec qui elles vont pouvoir échanger. Sur leur vie, sur comment leur mari, c'est pas tous les jours facile, sur comment elles sont fatiguées, sur puis ne serait-ce que faire des blagues.
Mais aussi, enfin, c'est aussi cette vision-là, et aussi peut-être sur la situation du monde, ou parce que voilà, c'est voilà, parce que ben, je crois que comme tout être humain, bah voilà, on est ouvert sur plein de réalités et que voilà, qu'on peut s'y intéresser, quoi.
Et ce que je trouve intéressant, c'est de réfléchir à quelle stratégie, c'est parce que pour moi, c'est aussi des stratégies, enfin des stratégies de défense, des stratégies de survivance. Enfin, je pense vraiment dans certains cas de où je pense que le cadre du couple et de la vie familiale peut être vraiment enfermant et pas forcément vraiment pas évident à vivre. Et ben tous ces moments-là entre femmes peuvent être vraiment des moments de soutien super fort,
de ressources et voire d'émancipation,
et du coup bah ces stratégies là qui mènent les femmes vers ces moments là et ben les réunions tupperware pour aller dans le caricatural, et ben je trouve que c'est vraiment une stratégie intéressante à analyser aussi, quoi.
Voilà, et que du coup il y a un moment où ça devient aussi vraiment justement toute la force de cette oppression contre les femmes, de à la fois les renfermer dans des rôles, dans des carcans, et en même temps de se moquer, voire enfin de les mépriser complètement une fois qu'elles tiennent ces rôles-là. Et on parlait aussi voilà de ce truc aussi récurrent de par exemple la coquetterie. Enfin, on attend donc complètement des femmes qu'elles soient belles, jolies, minces, etc. Et en même temps, dès qu'elles vont faire des efforts pour justement être le plus jolie possible, etc. Dès qu'elles vont faire ces efforts-là, voilà, on va se moquer d'elles, dire oh là là, mais quelle personne superficielle, complètement figée sur ses apparences et tout.
Mais ça, on le voit dès l'enfance, hein. Moi, les petites filles de 5, 6, 10 ans qui sont coquettes parce qu'on leur a bien appris à être coquettes et qu'on va dire oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est coquette celle-là.
Voilà, quelle mijaurée, elle nous fatigue avec toutes ces manies.
Alors que c'est bien ce qu'on lui a demandé hein, d'être. Hein. Et du coup, on va. Ben, puisqu'on parle de solidarité, moi j'ai envie de vous proposer d'écouter une chanson de Barbara qui s'appelle
Les rêveuses du parloir.
Rêveuses de parloir, et qui est dédiée, enfin qu'elle a écrite pour toutes les prisonnières, parce qu'elle a fait des concerts dans des prisons de femmes, à Fresnes, à Montluc, et à Montluc aussi à Lyon. Et moi, j'avais du coup bien envie de passer cette chanson-là pour réaffirmer effectivement aussi notre solidarité avec toutes les femmes qui se retrouvent en prison pour toutes les raisons pour lesquelles elles, enfin, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles y sont, vraiment notre solidarité avec toutes ces femmes-là. Donc voilà, c'est Barbara, rêveuse de parloir.
Rêveuse de parloir, une cellule en couloir, de courage en espoir, de rage en désespoir. Rêve de parois dans votre vie placard, sans ciel, sans fleurs, sans berceau. Vous baignez des oiseaux derrière vos barreaux. Rêveuse, petite rêveuse de parloir. Orpheline de la dérive, délit délinquante. Tous anges pour braquage, stupes et stupéfiantes. Petite fille sans soir, décide des trottoirs. De galère en galère, de rêve en poussière. Cassée, brisée, balancée. Rêveuse de parloir, sans soleil, sans maison. Sans enfant, vous n'avez plus rien. Le bruit des clés, des grilles qui claquent. Rythme, phobie métallique. Verrou, verrouillé derrière la lumière. Vous peignez des bateaux qui vous traversent. De l'autre côté des parois. Rêveuse parloir, voyageuse de l'espoir. Je pense à vous, je pense à vos regards. Je pense à vos rires, je pense à vos larmes. À vos filles de femmes sans amour. Je pense à vous qui marchez vos vies. De courage en espoir, de rage en désespoir. Vers la lumière au bout du couloir. Toi la petite Bonnie, Julie, Fatima, fille Adédé, la femme à Fredo, la Diane, Oura, la petite Victoria, Nicole et Michel, et vous Marise. Je pense à vous, je reviendrai vous voir. Jeanne-Marie, Rose-Claire, Lucie, Brigitte, Julienne, Johanna, Louise, Susan, Gemma, Aïcha, et vous, maman Berthe. Je pense à vous, oh rêveuse, petite rêveuse de parloir.
Vous écoutez Dégenré, l'émission féministe des deuxième et quatrième mercredis de chaque mois sur Radio Kaléidoscope 97 FM. J'avais envie de vous rappeler que cette émission est écoutable de partout dans le monde, par Internet.
Oui, soyons fous.
Soyons folles. En se connectant à http://www.radio-kaleidoscope.net. Et là, il faut cliquer sur écouter en direct la radio. Donc, tous les mercredis, enfin, le mercredi de 18h30 à 20h. Vous pouvez écouter en direct sur Internet. Et d'ailleurs, en alternance avec Dégenré, il y a l'émission contre toutes les prisons et pour tous les tolards et toutes les tolardes qui est donc en alternance avec Dégenré qui s'appelle Les Murons des Oreilles et qu'on vous conseille vivement d'écouter aussi. On a parlé un peu de quelle solidarité se met en place entre les femmes, de comment c'est hyper important et de comment c'est complètement dénigré, enfin en tout cas trop dénigré et pas assez valorisé. Et ben moi j'avais aussi peut-être envie de parler de ce qui est encore plus invisibilisé, c'est quand ça dépasse l'amitié. Enfin, quand ça dépasse l'amitié.
Après, justement, c'est toutes les questions de comment, dans notre société, c'est hiérarchisé, ces rapports-là. Il y aurait forcément donc l'amitié, bon, qui est bien et tout, mais après, au-dessus de l'amitié, il y aurait l'amour. Alors nous, on avait un petit peu envie de faire sauter ces barrières-là et de montrer que, ben, en tout cas, des relations entre femmes, ça pouvait être plein de choses et ça pouvait... prendre plein de formes, et ça pouvait aussi être sexuel, aussi fait d'attirances diverses. Et donc, c'est un petit peu de tout ça dont on voulait vous parler.
Et que c'était pas forcément cloisonné, surtout, c'est que la frontière, elle est est-ce qu'elle est vraiment si claire que ça? Enfin bon, elle l'est pas forcément justement, donc j'avais peut-être j'avais envie de parler des relations qu'on pourrait dire amoureuses, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, mais qui sont pas forcément nommées comme telles. Et alors j'avais peut-être envie de prendre un point de vue historique d'abord pour commencer un peu. Et bah, finalement dans l'histoire il y a peu d'écrits hein, par rapport aux relations amoureuses entre les femmes.
Ce qui est pas un hasard non plus quand on voit l'intérêt ouais, qu'on y a porté. Quoi.
Et puis surtout ce qui est pas un hasard non plus quand on voit que de toute façon il y a peu d'écrits en général sur les femmes, puisque de toute façon c'était les hommes qui avaient la maîtrise de l'écriture et de la lecture jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. C'est les hommes qui écrivaient, c'est les hommes qui savaient écrire, qui savaient lire, puisque...
Et donc ils faisaient tout, ils faisaient la grammaire, la littérature...
Et alors, donc évidemment, c'est pas parce que ça existe très peu dans les écrits que ça n'a pas existé, hein, les
dans
relations
la réalité, ouais.
dans la réalité. Donc évidemment, bah, les relations d'ordre amoureux ou sexuel, ça a toujours existé entre les femmes. Alors bon, j'avais envie de donner l'exemple de Sappho, c'est l'exemple le plus connu. Hein. Sappho, c'était une poétesse lesbienne qui vivait en Grèce à l'Antiquité. Je sais pas exactement la période historique exacte, hein, mais c'était dans l'Antiquité. Et qui vivait bah, sur l'île de Lesbos. Alors c'est pour ça que c'est de là d'où vient le mot lesbienne. Et d'ailleurs de son nom Sappho est venu le mot sapphisme qui définit les relations entre femmes, sexuelles entre femmes. Et donc Sappho, elle a écrit plein de poèmes, enfin beaucoup de poèmes, dont beaucoup ont disparu, je crois, dans l'incendie de...
La grande bibliothèque d'Alexandrie.
Il me semble que c'est dans cette bibliothèque-là qu'ils étaient et qu'ils ont brûlé, mais on a pu en retrouver dans divers écrits ou études qui avaient été faites. Et dans ces poèmes-là, elle avait écrit beaucoup sur son attirance pour les femmes ou sur les relations qu'elle entretenait avec des femmes. Et ce qui est... encore un comble, c'est que dans beaucoup de traductions, eh ben, ça, le genre a été changé, ça a été mis au masculin quand elle parlait d'amante ou d'amoureuse ou de personne qu'elle aimait, de femme qu'elle aimait, eh ben, ça a été transformé dans la traduction en homme, parce que sa poésie est très reconnue comme étant une grande poésie, hein, c'est un peu une extraterrestre au milieu des hommes de l'Antiquité, eh ben, Sappho, la poétesse, elle est très reconnue pour la qualité de ses poésies, mais alors pour autant, vous imaginez bien que c'était pas convenable de parler comme ça des femmes de la part d'une femme. Donc ça a été changé, c'est un peu un comble. Mais bon, donc c'était pour parler de Sappho qui déjà donc à l'Antiquité parlait de son attirance, de son amour pour les femmes. Et aussi du coup, bon, pour revenir sur le point de vue historique, contrairement aux relations sexuelles entre les hommes, et ben il y a jamais eu une législation spécifique qui a vraiment réprimé l'amour entre les femmes, la sexualité entre les femmes finalement. Il s'agissait plutôt d'une répression par le silence. Enfin, moi, j'ai peut-être envie de questionner le rôle des dictionnaires, des encyclopédies, parce qu'elles ont occulté pendant hyper longtemps l'existence même des amours entre femmes, quoi. Il y avait le mot tribade qui apparaissait des fois, donc bon, ça veut dire lesbienne aussi. Hein. Et quand même, dans la définition de tribade au siècle des Lumières, il y avait écrit à la fin de la définition « On évite d'employer ce mot ». Et c'est assez significatif sur l'interdit comment l'interdit, et ben il s'épanouit dans la grammaire, quoi, et c'est bien le système du bien penser, du bien parler qui fait que ben c'est peut-être le meilleur moyen de contraindre les femmes au silence et de les maintenir étrangères à la culture aussi, quoi.
Mais d'ailleurs, on peut peut-être quand même faire une petite parenthèse sur à la fois le rôle de cette grammaire et ce que ça engendre par rapport aux réalités. Ça c'est vraiment sur je dirais l'aspect genré du langage. Je pense qu'on vous en a déjà parlé, mais c'est vrai que dans le langage commun, dans la langue française, et ben donc c'est toujours le masculin, donc le genre masculin, donc là au niveau grammatical, qui l'emporte sur le féminin, et que il y a cette espèce d'idée que ce serait, je sais pas comment dire, que ce serait neutre, que ce serait objectif. Voilà, la grammaire est comme ça. Sauf que la grammaire, par qui elle a été faite? Ben, par des personnes. Et je dirais pas juste par des personnes, mais bien par des hommes. Et que c'est bien, là qu'on peut voir que non, c'est pas neutre. Qu'effectivement, les hommes, ben, ils parlaient d'eux, ils parlaient pour eux, et que de toute façon, ils ne voyaient quelque part que dans, comme ayant un rôle dans cette société. Donc finalement, oui, non, logiquement, le masculin, l'emportait sur le féminin. Et l'emporte toujours.
Et logiquement aussi, eh ben, les amours lesbiennes étaient de toute façon complètement ou quasiment invisibles. Et si elles n'étaient pas invisibles, elles étaient de toute façon complètement décriées. Et ensuite, c'est la science qui est venue décrier ces relations-là en utilisant tout plein d'arguments soi-disant physiologiques sur la taille du clitoris qui définirait les lesbiennes, qu'elles s'en serviraient de leur grand clitoris pour avoir de la sexualité avec d'autres femmes. Enfin bon, ce serait trop long, on pourrait faire une émission entière pour vous raconter toutes ces anecdotes-là. Il y a eu des recherches de fait.
Mais par contre, voilà, on parlait de répression, et c'est vrai que je pense que la répression contre l'homosexualité, donc masculine, elle a été légiférée, c'est-à-dire qu'il y a eu des lois, tout ça, donc c'est ce qui est horrible, hein. On est bien clair là-dessus, c'est pas pour dire, voilà.
Ils avaient de la chance.
Voilà, je crois que c'était vraiment terrifiant, hein, sous cette répression-là, qu'effectivement,
il y a des hommes qui sont retrouvés en prison, où je pense, je suis pas bien au courant de tous les détails, mais qui ont eu des trucs affreux qui leur sont arrivés parce qu'ils avaient été vus en train d'avoir, ou qu'on savait qu'ils avaient des relations sexuelles avec d'autres hommes.
Mais qu'effectivement, les femmes, donc, non seulement c'était passé sous silence, mais par contre, il y a quand même beaucoup de femmes qui se sont retrouvées donc en hôpitaux psychiatriques, par rapport à leur pratique sexuelle, si je sais pas dans leur entourage ou dans leur famille, ça venait à savoir qu'elles avaient des relations avec des femmes et qui sont vues couper le clitoris, alors donc sous des raisons effectivement pseudo-médicales. Alors là encore, je trouve que c'est intéressant de voir comment c'était tout à fait présent dans notre société, parce qu'il y a un moment aussi où on s'horrifie énormément des pratiques d'excision dans des sociétés quelque part, qu'on aurait tendance, je pense, parfois à qualifier de barbares, à leur dire
d'arriérés.
Voilà, d'arriérés. Donc c'est barbare là-bas en Afrique, par exemple, ils pratiquent l'excision. Alors oui, je pense qu'on a beaucoup à dire sur l'excision et sur l'horreur que ça représente pour des millions de femmes là-bas. Mais il y a très peu de temps, dans nos hôpitaux psychiatriques occidentaux, on coupait effectivement le clitoris des femmes de manière bien plus hypocrite, parce que c'est censé être pour leur santé.
Oui, parce que du coup, on coupait pas seulement le clitoris aux lesbiennes ou aux femmes qui étaient accusées d'avoir des relations avec d'autres femmes, mais aussi aux filles qui se masturbaient trop. Autrement dit, qui se masturbaient tout court.
Voilà, parce que c'était pas
bon pour la santé. C'était. Mais oui, effectivement, c'est donc complètement il y a ce point de vue là de comment la grammaire, de comment les dictionnaires, de comment les scientifiques de fait ont travaillé à invisibiliser ou à ignorer les relations qui pouvaient exister entre les femmes. Et encore maintenant, alors d'une façon beaucoup, enfin très différente et peut-être insidieuse aussi, enfin assez insidieuse, parce que bon, l'homosexualité maintenant c'est voilà, on s'est toléré, etc. Et ben pour autant, moi je trouve que c'est encore pas simple du tout. Et je pense à l'adolescence par exemple, alors pas seulement, hein, mais je pense quand même aussi aux adolescentes. Et que aussi, oui, ce que je voulais dire dans ce truc du cloisonnement qu'il y a sans cesse entre amour et amitié, moi je le trouve pas très clair. Enfin, je trouve qu'il est pas forcément si évident que ça et si clair. Et dans les relations entre les filles, et ben qu'est-ce qui se passe aussi? Il se passe que par plein de biais différents, par le biais de jeux, par des fois il y a des rapprochements physiques qui se créent entre des femmes, entre des filles, et ça va pas être nommé comme étant du lesbianisme ou de l'homosexualité, ça va pas forcément amener une définition de soi en tant qu'homosexuel.
Et quelque part on s'en fiche justement de
mais pour
des
autant,
mots qu'on peut mettre dessus,
voilà,
quoi.
Pour autant c'est ce qui se passe et va y avoir quand même des situations de honte de l'oublier complètement. Enfin, moi, je veux bien prendre mon exemple. Hein. Moi, vers 11 ans, j'ai des souvenirs de jeux avec une copine. Alors, c'était juste une pote. Et ben, de jeux où on se touchait quand même finalement, peut-être pas directement avec les mains, mais d'une façon ou d'une autre, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du sexuel, quoi, et de l'attirance aussi. Alors après, c'était pas nommé comme tel. On n'en a jamais parlé, évidemment. Moi, je l'ai quasiment rasé de ma mémoire jusqu'à il y a pas longtemps. Enfin. Mais pour autant, ça existait. C'était une relation qui était chouette avec cette fille-là. On était vraiment copines, on parlait de plein de choses. Et je pense que ça existe pour plein de filles. Et que c'est pas du tout... qu'on n'en parle jamais parce que ce serait la honte. Ou c'est bizarre, c'est pas normal. Et puis justement aussi parce qu'il y a ce...
C'est censé ne pas exister, simplement.
Soit c'est censé ne pas exister entre copines. Si ouais, c'est ouais. juste une copine, tu vas pas toucher ta copine, quoi. C'est de l'amitié, c'est pas. Et aussi, il y a ce risque, enfin, je pense, qui est perçu comme un risque d'être homosexuel et que ça reste quand même pas la chose la plus souhaitée par les parents pour leurs enfants. Donc, je pense que ce risque-là, cette idée-là, comment dire.
Oui, c'est surtout voilà par rapport à toute la stigmatisation qu'il y a de ouais. voilà des lesbiennes et ben voilà, il vaut mieux tout de suite éviter surtout d'être rangé dans cette catégorie-là, ça c'est sûr. Mm. Mais je crois que pour redonner voilà un exemple, et c'est pareil, c'est assez bateau, mais je crois que c'est quand même c'est pareil, c'est frappant de voir comme par exemple des adultes, je sais pas, deux hommes qui vont vivre ensemble dans un appartement. Tout de suite, il va y avoir des suspicions, dire oh là là, je me demande s'il serait pas homosexuel. Bon, voilà, voire pédé. Bon, ça dépend un peu, voilà, de la considération qu'on peut avoir des personnes, etc. Mais par contre, deux femmes qui vont habiter ensemble, finalement, ça vient à l'idée de personne. C'est oh bah c'est des vieilles copines, voire c'est des vieilles filles. Enfin, des choses comme ça, des espèces de clichés qui font que il est censé rien se passer entre ces femmes-là. D'autres qu'une amitié très chaste et très très normale.
Oui, mais de toute façon la sexualité entre femmes est hyper invisibilisée. Enfin, de toute façon, les femmes ne sont pas des êtres sexuels en soi. Ou si, mais soit dans l'instrument des hommes. Mais mais bon, c'est vu comme quand même c'est hyper invisibilisé. Donc moi j'ai souvent entendu, enfin eu l'impression que par exemple pour la question des lesbiennes. Que c'est comme si les lesbiennes n'ont jamais de sexe, alors que si,
on peut vous rassurer
sur ce point. Mais ouais, et que même au-delà de la question des rapports physiques entre les filles qui seraient pas nommées comme de l'homosexualité, mais qui existeraient quand même, ne serait-ce que ce cloisonnement, l'amour-amitié, je le trouve affreux parce que justement, ça dénigre complètement même des amitiés très très fortes qui peuvent exister entre les filles avec une affection hyper forte. Et comment ça se fait que c'est pas de l'amour, c'est juste de l'amitié, alors que ma foi,
oui, même est-ce si que c'est pour autant ça aurait pas de valeur.
Et si c'est platonique, et alors pour autant il y a plein d'amour là-dedans et plein de choses hyper importantes sont apportées, quoi.
Et je crois que ce serait bien peut-être de vous donner un peu les références d'un des bouquins sur lesquels on a travaillé pour préparer cette émission, justement, qui apporte un peu des analyses complémentaires à tout ça.
Alors pour justement la question, un peu le point de vue historique de relations entre les femmes, et ben il y a un bouquin de Marie-Jo Bonnet, qui est donc une historienne spécialiste d'histoire culturelle et militante lesbienne aussi. Donc Marie-Jo Bonnet qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les relations amoureuses entre les femmes, et qui où justement elle aborde d'un point de vue historique, donc en remontant justement jusqu'à Sappho, mais après en passant aussi par le siècle des Lumières, jusqu'au 19e siècle, au 20e siècle et tout, justement, enfin avec tout ce travail sur les mots et sur les comment c'est nommé, donc de lesbienne à tribade, enfin, et elle fait tout un travail de recherche sur les mots, et c'est hyper intéressant. Et elle a sorti un autre livre aussi qui s'appelle Qu'est-ce qu'une femme désire quand elle désire une femme, donc je pense que c'est un titre avec un peu d'ironie. Mais qui est aussi assez intéressant. Donc le premier livre est sorti, les deux livres ont été édités aux éditions Odile Jacob.
Et donc à propos de Sappho, eh bien donc il y a justement une chanteuse grecque. Alors après on fera pas de rapprochement, je connais pas sa vie intime, et là en l'occurrence on va juste se contenter de l'écouter. Donc qui s'appelle Angélique Ionatos et qui chante donc des textes de Sappho.
Vasilepsane to fengari pai, vai to fengari pai kipulia. Vasilepsame.
Vous écoutez donc toujours Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Et donc on est toujours sur notre thématique autour des rapports entre les femmes. Alors voilà, j'espère que... Alors je crois que vraiment dans cette émission on n'avait pas envie forcément de, je sais pas comment dire, d'idéaliser les relations entre femmes, comme on vous disait au départ. Il y a quand même tout un carcan qui est imposé par notre société qui fait que c'est il y a plein de choses qui sont pas simples à vivre, que on a, il y a aussi des ressentis parfois très douloureux que ce soit dans la sphère plus amicale ou plus amoureuse ou je sais pas, mais on est vraiment consciente de ces réalités là et on n'idéalise pas, mais je crois qu'on voilà, on se dit que ben que dans tout ce qu'on vit de manière personnelle, collective, ou ce qu'on peut voir, observer autour de nous dans différentes sociétés, eh ben il y a plein de choses qu'on a envie simplement de mettre en valeur, de mettre en lumière. Et donc par rapport à ça, il y a un livre que je suis en train de lire qui me fait du bien aussi, je crois tout simplement, et qui s'appelle Ista, la croisée des chemins. Ça se déroule en Amérique du Sud et c'est pareil, hein, j'ai pu découvrir un peu le Chiapas et la lutte des zapatistes, et donc ce sont des luttes là-bas il y a énormément de luttes dans différents pays autour de la problématique donc des indigènes, c'est-à-dire que ce sont des minorités enfin au niveau du nombre, hein, des minorités indiennes qui se font complètement broyer par les différents États-nations, que ce soit au Mexique, mais aussi au Guatemala, au Salvador, au Nicaragua, etc. Donc des réalités, des communautés donc qui ne se font pas du tout entendre, voire qui se font massacrer. J'oubliais la Colombie aussi quand même, qui est un exemple assez horrible de ça, de millions de personnes qui se font déplacer de leurs terres pour des raisons économiques et qui se font massacrer. Et alors il se trouve que c'est toujours la même chose, que donc c'est des réalités vraiment terribles pour ces populations là et que en tant que femme elles subissent encore une double oppression. En tant qu'indigènes et en tant que femmes dans leur propre communauté où elles vivent aussi toutes sortes d'oppressions, donc ce qui est pas simple, mais qu'après il s'agit pas voilà d'un regard misérabiliste sur elles, parce qu'il y a vraiment énormément de combattantes qui sont à la fois impliqués dans ces mouvements de lutte là pour la reconnaissance des communautés indiennes, mais aussi pour qui luttent aussi pour leurs droits en tant que femmes et qui montent des réseaux de solidarité assez incroyables. Et justement, donc Ista, donc ce livre retrace en fait le parcours de trois femmes. Donc sur ces trois femmes, en fait, il y a une femme française, donc qui est là, une femme qui a un regard un peu plus extérieur, donc justement plus donc occidentale, et qui va découvrir vraiment la richesse de ces femmes-là et de leur lutte. Et sinon, donc il y a une indienne du Guatemala et une femme plus âgée qui a mené beaucoup la guérilla. Dans ces communautés indiennes. Et donc ce récit, c'est vraiment leur cheminement et leur rencontre à toutes les trois, chacune avec leur propre culture et leur propre parcours personnel. Et c'est vraiment en fait des portraits qui sont magnifiques, parce qu'il y a aussi toute la complexité de différents personnages. Et moi, je crois que les deux choses qui m'ont vraiment interpellée, c'est vraiment d'un côté la force de cette rencontre entre ces trois femmes-là, de tout ce qui peut se passer justement sur plein de plans, que ce soit au niveau politique, c'est-à-dire elles échangent énormément sur des analyses politiques qu'elles peuvent avoir de la situation mondiale et qui sont très intéressantes, donc elles échangent aussi sur leur statut de femme et sur leurs petits soucis personnels aussi. Enfin, il y a vraiment tous ces plans-là qui vont faire que bah il y a des relations à la fois d'amitié, d'amour, pareil où c'est pas toujours clair la frontière entre tout ça, mais qui vont se nouer entre elles trois. Donc ça, c'est vraiment vraiment très chouette, cette la force de cette rencontre là. Et donc ça, c'est justement aussi au-delà des barrières, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient de génération, ou qu'elles soient entre guillemets, je sais pas, sexuelles. Enfin il y a une des femmes qui est plus clairement, on va dire, dans des pratiques hétérosexuelles, et une autre plus clairement dans des pratiques lesbiennes, etc. Mais que voilà, qu'elles vont passer au-dessus de tout ça dans leur rencontre. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup frappée, et je crois aussi qui peut vraiment m'être mise en parallèle avec aussi ce qui se passe en Occident ou en France autour de nous, c'est comment en fait dans leur parcours, c'est donc des femmes qui ont été investies dans les luttes donc indiennes, et qui, à un moment donné, vont se rendre compte que là-dedans, peut-être, elles ont tendance un peu à s'oublier, parfois, c'est-à-dire à mettre de côté, justement, des oppressions et des ressentis très durs qu'elles peuvent ressentir en tant que femmes, et qu'il va y avoir une prise de conscience de leur part de ça, et que, donc, chacune à leur manière, elles vont entrer, finalement, dans une démarche féministe, ce que j'appellerais une démarche féministe, c'est-à-dire c'est pas nécessairement juste descendre dans la rue en criant des slogans, mais je crois que c'est vraiment aussi au quotidien, dans leur rapport aux gens, où elles vont s'affirmer en tant que qu'individu et porteuses de plein de valeurs. Et ça aussi, je trouve que dans toutes les luttes aussi qu'on voit aujourd'hui en France, que ce soit des luttes syndicalistes, on va dire, dans des boulots, ou à plein de niveaux, et ben souvent les revendications ou les considérations féministes vont être vraiment secondaires, annexes, alors que pour autant, justement, dans la sphère du travail, comme on le disait tout à l'heure, les femmes ont des moins bons salaires, etc. Et donc quelque part, il n'y a pas de raison que ces revendications là elles soient annexées, mais il se trouve que c'est vraiment une réalité, et que je trouve que ça nous donne une sacrée leçon aussi, comment l'autre bout du monde, et ben des femmes tout à coup elles vont se dire qu'on pense à nous et qu'on fasse des choses pour nous-mêmes et par nous-mêmes.
Tu vas nous lire un petit extrait.
Voilà, c'était là que j'en arrivais.
Et juste donc pour dire, ce livre, il a été écrit par Jules Falquet.
Ah ben peut-être t'en saurais plus que moi. Moi, j'avoue que c'est une auteure que je connais pas trop.
J'ai déjà lu d'autres trucs d'elle, effectivement, mais je me souviens plus vraiment quoi. Si, j'ai lu un texte d'elle où elle expliquait pourquoi elle avait voulu s'appeler Jules et de comment tout le monde la faisait chier, parce qu'elle avait un prénom de garçon. parce que donc c'est un choix qu'elle a fait. Hein. Ouais. Et donc Jules Falquet, bah, juste je sais qu'elle est sociologue, qu'elle est militante lesbienne, je sais pas, beaucoup d'autres choses.
Voilà, on peut dire qu'elle a écrit aussi d'autres bouquins, et ça c'est voilà, ce qui veut dire que... ben. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher.
Ou d'autres textes peut-être.
Aussi plus peut-être. Plus
on peut
théorique.
Trouver son nom dans des revues ou dans.
Voilà, en tout cas, voilà, je trouve que c'est une auteure qui écrit très bien. Alors donc dans cet extrait-là, en fait, il s'agit justement de cette femme française qui donc a déjà voyagé. Et vécu un petit peu donc au Mexique, qui est de retour là-bas et qui va tomber sur une manifestation de femmes. Elle venait d'arriver au Mexique, il y a 10 ans, jour pour jour, une date dans son histoire. La plus grande manif que j'avais jamais vue. C'était incroyable. Que des femmes, plein de femmes, partout, par centaines, par milliers. Au début, je m'étais mise sur un trottoir pour mieux voir. Il y avait tout. Des jeunes, des vieilles, des mères de famille, des adolescentes, des petites filles. Des femmes de la vie quotidienne, de toutes sortes. Aussi des indiennes. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Fascinée, je regardais passer les groupes, déchiffrant les banderoles. Syndicat des couturières du 19 septembre, et puis les voisines de la Colonia Emiliano Zapata. Je lisais, collectif féministe contre la violence. Dans un creux du cortège, dans la mer de tête brune, une apparition. Une fille avec les cheveux rouges hérissés sur le crâne. Elle faisait un fanzine anarcho-féministe avec ses sœurs et la bande de filles du quartier. Il y avait tellement de banderoles que j'avais du mal à toutes les déchiffrer. L'une d'entre elles disait « Ni fea ni hermosa, la mujer no es una cosa ». Au début, j'avais du mal à comprendre le slogan, avec mon espagnol de peu de jours. Mais quand j'ai réussi à saisir le sens des mots, ça faisait. Ni laide ni belle, la femme n'est pas une chose. J'ai trouvé ça parfait, exactement ce que j'aurais voulu dire. Je restais là, à penser, étourdie par l'illumination de cette phrase comme un coup de poing. Et puis j'ai commencé à avancer avec les autres, et à mi-voix, un peu honteuse de mon accent d'étrangère, je me suis mise à reprendre le slogan. Plus on marchait, plus je m'enhardissais. Au détour d'une avenue, je me suis rendu compte que j'étais au milieu de la rue avec le cortège, prise dans le cœur des voix. Je souriais à la cantonade, je reprenais à plein poumon, ni fea ni hermosa. J'étais comme un poisson dans l'eau, dans mon élément, enfin. Une révélation, je le vois comme ça aujourd'hui. Sur le moment, je ne pensais rien. Mon cœur battait sûrement très fort et je criais avec les autres, dans l'avenue bouillonnante de femmes. Nos voix portaient loin, entre les édifices, dans l'espace qui s'ouvrait devant nous. Rien ne pouvait nous arrêter. Quand je pense que je ne savais même pas que cela existait, des manifestations contre la violence faite aux femmes. Alors que depuis des années, dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes, chaque 25 novembre, les femmes sont dans les rues. Quel manque d'informations. Il faut dire que ce n'est pas la télé ni les journaux qui vont parler de ça. Et en tout cas, à Paris, rien de tel. Calme plat. Donc voilà un petit peu un avant-goût.
Ça donne envie.
Voilà, donc je me dis, hein, c'est ça, je crois que ça donne envie aussi d'organiser plein de choses entre femmes et de sentir...
Oui, elle a l'air chouette cette manif, hein, dis donc.
Voilà, et de ressentir aussi cette puissance-là. Alors, je crois que pour resituer un petit peu le contexte, je sais pas un peu quel temps il nous reste, je voulais juste vous... quand même redire un petit peu comment bah là-bas aussi voilà donc il y a des luttes qui sont fortes mais c'est pas par hasard non plus, c'est aussi parce que les féministes et les lesbiennes sont fortement réprimées. Donc je voulais juste vous lire un petit bout de l'analyse de donc Jules Falquet fait de la situation là-bas. Elle dit donc dans les années 80 se développe dans toute la région d'Amérique du Sud hein, dont les pays donc que je vous citais, un fort mouvement de femmes, souvent articulé autour des femmes des quartiers populaires et éventuellement des paysannes, en lien avec l'Église catholique progressiste et les organisations de gauche, qui y voient une manière de capter des énergies et éventuellement des financements pour leurs projets révolutionnaires. Parallèlement, depuis 81, le mouvement spécifiquement féministe se renforce considérablement, notamment par le biais de l'organisation tous les deux puis tous les trois ans, de rencontres féministes continentales qui rassemblent jusqu'à 5000 personnes, donc 5000 femmes. Progressivement, se forme une série de réseaux spécifiques, contre la violence, pour l'avortement, etc. Les groupes se renforcent et se spécialisent, et dans la perspective parfois contradictoire du féminisme des secteurs populaires, les liens avec le mouvement de femmes se font plus étroits. Mais que après, le problème, c'est que dans les années 80, en fait, il va y avoir une irrésistible institutionnalisation du mouvement, c'est-à-dire que les ONG, en fait, vont vraiment vouloir mettre leur nez dans ces luttes, pour différentes raisons, hein, plus ou moins altruistes. Et que le problème, en fait, c'est que ça va casser, en fait, des dynamiques populaires. Ensuite, elle dit que les lesbiennes de la région ont la vie dure, surtout si elles sont noires ou indiennes, et qu'elles vivent qu'elles ne vivent pas dans des grandes villes. L'hétérosexualité est obligatoire, renforcée par les différentes églises catholiques, protestantes, sectaires, indiennes ou afro, et donc c'est écrasant. La maternité et la famille tissent des liens étroits, resserrés par le manque d'alternatives professionnelles décentes et la difficulté de la mobilité géographique, dans un contexte de crise permanente. Cependant, en même temps que se développent les réflexions féministes, apparaissent des groupes lesbiens ou homosexuels mixtes, d'abord en Argentine et au Mexique, puis dans l'ensemble du continent. La plupart des organisations lesbiennes de la région vivent aujourd'hui dans une semi-clandestinité. Certes, beaucoup possèdent des locaux publics, souvent financés par l'État, mais la grande majorité de leurs membres ou sympathisantes préfèrent rester anonymes pour échapper à la répression, qui va de l'ostracisme social brutal jusqu'à l'assassinat. Dans ce contexte difficile, les lesbiennes féministes ont réalisé 5 rencontres continentales, la première ayant eu lieu au Mexique en 1987. Leurs réflexions ont quelque peu progressé au sein du féminisme et quelques lois antidiscriminatoires ont été votées dans certaines capitales, incluant parfois la discussion de propositions de mariage non hétérosexuel. Cependant, à l'heure actuelle, le mouvement lesbien, comme le mouvement féministe, s'est majoritairement orienté vers la promotion de la libre option sexuelle et des droits sexuels et reproductifs, sans plus remettre en cause l'ensemble de l'organisation sociale.
Non, mais c'est quand même hyper intéressant ce qui se passe.
Voilà, là-bas, donc c'est aussi c'est tout ça aussi moi, qu'on a envie de mettre en avant, c'est ouvrir un petit peu sur plein de réalités au niveau mondial.
Eh ben alors après ça, moi je vous propose d'écouter un petit morceau qu'à la pêche, un morceau qu'on aime bien, on l'a déjà écouté, c'est CTB, un groupe de punk de Saint-Étienne, des meufs de Saint-É qui font du punk, et on va écouter le Rock'n'Roll Witches, le Rock'n'Roll des sorcières.
I'm gonna make you mine.
Ce morceau, on avait envie de faire une petite dédicace et, de la part déjà d'Hélène et moi et Julia, hein, de l'équipe Dégenrée, mais aussi de nous, donc une dédicace à toutes nos copines et particulièrement à Julie et Pascal qui nous écoutent ce soir et en souvenir du baragouinage. Voilà, qui est donc un squat féministe qui s'est fait expulser à Nantes,
Voilà, donc je crois qu'on reste aussi un peu dans toutes ces thématiques-là, justement, de tout ce qu'on peut vivre et créer aussi en tant que femme, parce que je crois qu'on a aussi envie de parler de cette création, et création, ça peut être, je sais pas, au niveau musical, littéraire ou quoi, mais aussi en termes d'expérience de vie, et donc il y a voilà des lieux de vie aussi qui existent entre femmes où il y a plein de choses qui se passent, et donc ce lieu-là, c'en était un, et donc il s'est fait expulser. La Mordue, qui était aussi un squat donc de femmes sur Grenoble.
Et évidemment, c'est déjà des expériences hyper intéressantes effectivement de voir quel lien on peut tisser entre les femmes et comment on peut vivre ensemble et malgré toutes nos constructions. Et c'est justement pas évident. Alors quand en plus les propriétaires, que ce soit ville ou privée, s'y mettent derrière.
Ce grand ordre, voilà, de la propriété privée et sacrée.
Eh ben, c'est encore plus dur et ça met plein de choses et c'est pas toujours facile ce qu'on vit, mais moi, je voulais quand même dire que, mine de rien, au final, c'est toujours chouette quand même et que je trouve qu'on a plein de force pour dépasser plein de choses malgré les difficultés qu'on rencontre, quoi. Voilà.
Voilà. Et du coup, on espère, qu'au travers de cette émission aussi, peut-être on vous aura donné des envies, que ce soit une envie de soirée entre copines, que ce soit, plein de projets ou autres parce que, voilà, on pense quand même qu'il y a plein de choses à en tirer. Et donc, on voulait conclure cette émission par différentes informations.
Alors, vu qu'on parlait là donc de squats, de lieux occupés qui sont menacés d'expulsion ou qui sont expulsés, hein, et ben là, peut-être on peut parler d'un squat mixte, à Grenoble, qui s'appelle les 400 couverts.
Et donc c'est un lieu, donc c'est toute une traverse, donc qui est dans le quartier Centre Gare, avec donc différentes maisons d'habitation où les gens essayent d'expérimenter des formes de vie collective et solidaire. Et puis aussi des espaces plus publics comme un square, un petit square donc aménagé avec un four à pain où il se passe aussi des repas de quartier, enfin des choses assez conviviales autour de cet espace-là. Et puis aussi le Chapitonome que vous connaissez. C'est peut-être que vous avez peut-être eu l'occasion de voir que ce soit des débats, des projections vidéo, des spectacles ou rencontres. Voilà, c'est un lieu très vivant et qu'on aime bien parce que voilà, il s'y passe des choses dans une démarche non commerciale, c'est-à-dire à prix libre. Voilà, des choses aussi qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres espaces.
Par exemple, au Chapitonome, il y a un infoshop féministe dont on oublie souvent de vous parler, mais qui porte le même nom que cette émission, hein, Dégenrée, donc, où on peut trouver des brochures, des textes féministes, lesbiens, queer, intéressants, et aussi donc dans l'infokiosque, dans lequel il y a aussi plein de brochures sur plein de sujets différents, à prix libre toujours.
Voilà, donc c'est tout ce lieu-là qui est menacé de destruction. Donc c'est toujours cette logique de rentabilité, puisque donc là c'est un espace qui à la fois où vivent plus d'une vingtaine de personnes et qui fait aussi vivre tout un quartier, enfin où il se passe plein de choses. Et il s'agirait donc de le détruire pour reconstruire des logements derrière, tout neuf, tout propre. La majorité pour être vendus, et puis une petite partie aussi de logements sociaux, mais qui est assez dérisoire. Nous on a envie de vraiment défendre le fait que des espaces comme ça puissent vivre au-delà justement des logiques de rentabilité. Pour défendre cette traverse, ce projet, mais au-delà aussi, je crois qu'un certain nombre de valeurs par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une ville, qu'est-ce que c'est aussi qu'on a envie de d'y créer. Il y a une grande manifesta donc samedi prochain, donc le 30 avril, et donc il y a un rendez-vous à 13h30 au 400 couverts. Là l'idée, c'est toujours de se rencontrer et de se faire plaisir. C'est-à-dire que oui, on va défiler, protester contre cette expulsion, mais que bah, qu'on a envie que ce soit aussi un moment à partager entre le plus de gens possible. Donc il y aura de la musique, il y aura des jeux, voilà, tout ce côté festif. Donc vous pouvez y arriver déguisé, coloré, etc.
Un bon moment en perspective, on l'espère alors.
Voilà,
donc contestation, mais aussi pour en s'amusant. Enfin.
Voilà, donc rendez-vous est donné, donc samedi 30 avril à 13h30, traverse des 400 couverts, quartier Centre Gare.
Voilà, donc l'émission se termine, alors j'espère que ça vous a plu. Et la prochaine émission, ce sera sur le rapport au corps, avec des témoignages, des extraits de discussions qui ont eu lieu entre nanas qui parlaient de leur histoire par rapport à leur corps, de leur rapport à leur corps. Enfin bref, c'est dans 15 jours, donc à 18h30. Rediffusion de cette émission-là lundi prochain, là à 19h. Et la semaine prochaine, mercredi prochain, c'est Les Murs ont des oreilles, donc l'émission anticarcérale. On va se quitter en écoutant un groupe qui n'existe plus, qui s'appelle Almarita, c'est deux femmes de Nevers qui chantaient et elles faisaient de la chanson de récup. Alors elles récupéraient des musiques d'un côté, des paroles de l'autre et elles les mettaient ensemble. Et ça, c'est un texte que j'aime bien. Vous pourrez reconnaître la musique facilement, je pense, effectivement. Qui s'appelle Nique ta mort et... Et voilà, donc on va écouter Nique ta mort d'Almarita. À dans 15 jours.
Au revoir.
Bonne soirée.
Qui s'appelle Christos et qui écrit tous les textes d'un groupe qui s'appelle Petit Peuple. Ça s'appelle Nique ta mort.
La vieille a des flatulences. De plus, lorsqu'elle parle, sa voix est entrecoupée de renvois rauques et denses. Elle est allongée sur le lit blanc avec ses bras décharnés, inélégants. Sur son poignet droit, une meurtrissure causée par la dernière piqûre. Ses yeux sont ternis, jaunis, peut-être par cette accumulation des images et des lumières, les lumières de toute une vie. Son visage est tendu vers le plafond blanc, elle le regarde fixement. Maintenant, les voix de ceux qui l'entourent ne sont plus que des murmures. Elle ne veut plus les entendre. Entendre quoi, de toute façon? Ils étaient venus en force, tous et toutes, et critiquant tout et surtout cette odeur d'hôpital rance, le peu de soins des aides-soignantes. Ils l'avaient questionnée rapidement, mangeait-elle correctement, allait-elle à la selle dans les temps? Puis, ils s'étaient souvenus que l'important était de parler d'eux-mêmes. Mais oui, de même, chacun mentionnait son âge, argumenté sur le temps qui passe. Le tout entrecoupé de brefs regards attendris à l'adresse de la vieille qui n'osait plus les déranger. Survenait alors le départ. C'était les recommandations, les accolades et les au revoir. Ils avaient envie de rester, mais ils avaient tant à faire, à vivre encore. Ils promettaient une visite pour le dimanche suivant. Oh, de nouveau seule, elle ne pleure pas et elle a même un sourire, songeant que finalement, le jour où elle se sent le plus seule, mais c'est quand ils sont là, c'est le dimanche. L'espoir fait vivre.